Bonsoir et bienvenue dans L'heure de pointe, le magazine de société sur Radio Présence. C'est une grande joie de se retrouver, n'est-ce pas, Anne Deslois ?
Oh, toujours une grande joie. Bonsoir David, bonsoir à tous.
Et puis bonsoir Delphine Pereira.
Ah, j'ai cru que vous aviez oublié mon prénom.
Écoutez, j'avoue, j'ai eu une petite seconde en vous regardant, mais c'est peut-être l'intimidation de cette émission radio. C'est vrai, nous sommes en partenariat avec la Dépêche du Midi, et
bonsoir.
Voilà le titre de la République des Pyrénées. Alors, ce soir, en fait, on va faire un grand saut dans le patrimoine de Lourdes, un patrimoine assez méconnu, mais en tout cas qui gagne à l'être davantage, en tout cas de le redécouvrir. Nous sommes avec Pascal Castillo. Bonsoir Pascal.
Bonsoir David.
Vous êtes archiviste du diocèse de Tarbes-et-Lourdes et vous vous chargez également du rayonnement du patrimoine pour le sanctuaire. Vous êtes accompagné de Laure Latane. Bonsoir Laure.
Oui, bonsoir David.
Vous êtes historienne de l'art, vous êtes éditrice également de la maison d'édition Jour des Arts, parce que livre vient de naître, voilà, un nouveau livre. Il s'appelle Bannière en procession. C'est aux éditions NDL Éditions, les éditions du Sanctuaire de Lourdes et également de Jour des Arts, parce que c'est une occasion là qui est donnée de mettre en valeur une collection unique de bannières de pèlerinage. Alors, est-ce que tout le monde sait bien de quoi parle-t-on ? Pascal Castillo, vous qui êtes archiviste, vous qui connaissez le sanctuaire comme sa poche, ça fait 10 ans déjà que vous avez ce projet de mettre en valeur la collection des bannières du sanctuaire.
Oui, tout à fait. J'aime à dire pour cet ouvrage, 10 ans de sensibilisation et 6 mois de travail acharné pour arriver à la publication. C'est vrai que on a le sanctuaire a une collection de bannières votives exceptionnelle. Je pense que c'est peut-être la collection la plus riche en Europe, voire dans le monde. Et cette collection,
oui,
elle n'est pas connue.
Mais oui, mais c'est déjà peut-être l'objet de la bannière. Vous avez dit bannière votive, on parle de bannière de pèlerinage. Qu'est-ce que c'est ? Décrivez-nous.
Alors, une bannière, c'est une pièce d'étoffe, de tissu, ornée d'un décor. Mmh. C'est un travail de broderie, le plus souvent. Et c'est porté en procession. L'étoffe est accrochée sur un morceau de bois transversal qui tient sur une hampe.
D'accord, un drapeau, quoi.
Un étendard.
Un étendard.
Tout à fait.
Ah, c'est ça. Laure Latane, vous connaissiez, alors vous êtes de Lourdes évidemment, donc tout le monde connaît les processions, je ne regarde pas nos amis chroniqueurs ici qui connaissent évidemment les processions de Lourdes, mais est-ce que vous saviez que le sanctuaire avait une telle collection ?
Ah non, pas du tout. Alors j'avais travaillé avec Pascal sur un livre précédent qui s'appelle Lourdes, la cité, le sanctuaire. Et j'avais demandé, alors c'est un livre sur Lourdes, des origines à nos jours. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer le patrimoine lourdais. Et j'avais demandé à Pascal, en tant qu'archiviste, et à la conservatrice du musée pyrénéen, de me parler de leur collection. Et Pascal avait choisi la collection des bannières. Et j'avais été assez subjuguée par la bannière chinoise, la mission de Shanghai, par sa beauté, par sa délicatesse, enfin tout en soie, brodée. Et ancienne, très ancienne, fin du 19e. Et quand Pascal est venu avec ce projet, évidemment, c'est un sujet très particulier, les bannières, on n'en voit pas tous les jours. D'autant que les processions ont un peu disparu. Enfin, on en parlait tout à l'heure, il y a de moins en moins de processions avec autant de décorum, c'est-à-dire autant de décorations, de couleurs. Maintenant, on est beaucoup plus sobre dans notre façon d'aborder la religion. Et j'ai découvert avec... Je suis tombée dedans.
Combien il y a de bannières à Lourdes dans cette collection ?
Alors, cette collection, elle compte 298 bannières, dont quelques drapeaux dans l'ensemble.
Et elle a été accumulée, dirons-nous, au fil des ans. C'est les processions, les pèlerins qui viennent ici, qui participent à des processions, les pèlerinages organisés, qui laissaient leurs bannières ?
Alors, c'est une très longue histoire.
Alors, on va raconter.
On va y rentrer. En fait, l'origine de la collection est liée au grand pèlerinage des bannières de 1872. On est au lendemain de la guerre de 70 et il y a un pèlerinage qui est organisé. On fait appel à tous les diocèses de France pour venir en pèlerinage à Lourdes. Et là, on demande à ces diocèses de venir avec la bannière qui illustre le sanctuaire marial principal, ancien, fort de dévotion de leur diocèse. Et donc, les pèlerins arrivent avec ces bannières. Et il est décidé à ce moment-là que ces bannières constitueront le décor de la basilique de l'Immaculée Conception. Vous voyez, c'est vraiment intimement lié. Donc l'initiative, c'est l'abbé Chorcarn du diocèse de Dijon avec Madame de Blic. Et ils vont voir le recteur du sanctuaire, le père Saint-Pé, à ce moment-là, en disant « voilà notre idée ». Et le père Saint-Pé dit « ok ».
Et vous êtes en train de nous expliquer que chaque bannière de tous ces pèlerinages de cette année-là, finalement, on va les laisser pour décorer la basilique du sanctuaire.
De l'Immaculée Conception.
Donc, oui. Basilique de l'Immaculée Conception, c'est bien la basilique qui est supérieure.
Oui, la supérieure, oui. Ouais. Elles vont être portées en procession à l'occasion de ce pèlerinage, 6 octobre 1872. Et dès le lendemain du pèlerinage, les ouvriers du sanctuaire commencent à les accrocher.
Donc,
Oui, il y a une magnifique photo d'ailleurs dans votre livre qui illustre parfaitement et on comprend tout à fait comment ils ont fait et combien de temps c'est resté en fait.
Alors, donc ces bannières, 1872, on dit qu'il y en a 302 qui ont été installées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, elles ont été renouvelées. Et renouvelé matériellement, mais aussi à travers ce renouvellement, ce sont les pèlerinages, que ce soit des diocèses, des congrégations, des paroisses, des œuvres, qui renouvellent leur dévotion, leur amour, leur fidélité à Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Donc, au fur et à mesure, elles vont être complétées, remplacées. Et en 1946, il y a des travaux dans la basilique de l'Immaculée Conception, la basilique supérieure. Et là, on peut lire dans le journal de la grotte qu'elles sont en piteux état, en lambeaux, donc il faut les renouveler. Donc en 1946, le sanctuaire fait un appel au pèlerinage en disant « renouvelez vos bannières ». Et du coup, dans notre collection, nombre d'entre elles sont datent de après 1946. Et donc, on peut estimer qu'on en a 40% qui sont postérieurs à 46, 30% qui datent de la fin du 19e et 30% de la première moitié du 20e. Vous voyez ? C'est un renouvellement permanent. Alors là, nous, on pose un regard patrimonial en se disant « Oh ben, on aurait bien, sur les 302 de 1872, il en reste 6 ou 7 dans la collection ». Parce que l'objet, c'était pas de les conserver dans des réserves, c'était de les exposer et de montrer que le pèlerinage était vivant.
Vous êtes en train de nous dire que finalement ces bannières, elles se sont dégradées avec le temps à des
les conditions matérielles, les cierges, il faut se dire les cierges, la poussière, les conditions. Il n'y avait pas de chauffage dans la basilique de l'Immaculée Conception. Et donc, au fil du temps, elles ont été renouvelées et de nouveaux pèlerinages ont également offert une bannière. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un ensemble vivant.
Anne Deslois.
Et justement, encore aujourd'hui, parce que quand les pèlerins viennent avec leur diocèse, leur paroisse, différents organismes, bien souvent, ils participent aux processions qui sont dans le sanctuaire et ils ont bien souvent une, deux ou trois bannières qui les identifient. Donc, en fait, cette tradition de la bannière, il y a à la fois les bannières, on va dire, de collection qui forment ce patrimoine que vous avez, ce riche patrimoine, puis... Comme on dit, c'est vraiment un patrimoine vivant puisque ça se renouvelle sans cesse. En 2024, il y a encore, je suppose, beaucoup de pèlerins qui sont revenus et qui ont été heureux de défiler, de processionner derrière la bannière qui caractérise, mettons, leur diocèse ou leur paroisse.
Tout à fait. Alors, la bannière, c'est l'objet de la procession, en fait. C'est la bannière qui ouvre la procession. Et donc, les pèlerinages viennent depuis des décennies avec leur bannière. Ça, ce sont les bannières de procession. La collection, ce sont des bannières votives. Elles ont été offertes au sanctuaire en tant qu'ex-voto.
Mmh. Voilà. À un moment, le sanctuaire fait donc le choix également de les décrocher totalement. Et c'est là où, finalement, la collection entre dans les fonds du sanctuaire.
Tout à fait. Donc, à la fin des années 90, il est décidé... Alors, comme je vous ai expliqué, elles ont été renouvelées. Donc, on en a décroché, on en a raccroché d'autres. Enfin, il y a eu quelques changements. Mais à la fin des années 90, c'est plus dans l'esprit du temps, peut-être, on décide de décrocher toutes ces bannières et ces ex-voto. Et c'est à ce moment-là qu'elles rentrent dans les collections du sanctuaire.
Donc aujourd'hui, il y a un lieu dans le sanctuaire, certainement Laure Latane, un lieu que vous avez découvert, parce que c'est ce qu'on découvre à la lecture du livre, parce que nous on a vu le livre, donc on sait déjà de quoi il en est. Il y a donc un lieu où sont conservées toutes ces bannières.
Oui, des réserves, hein, comme dans tous les musées, puisque c'est une collection patrimoniale aujourd'hui. Donc il y a un espace qui a été aménagé spécialement, avec des plateaux, puisque pour la bonne conservation de ces pièces de tissu, il faut les conserver à plat, dans un environnement avec un taux d'hygrométrie et une température maîtrisée, parce que ce qui est pire que tout pour les tissus, ce sont les chocs thermiques. Vous imaginez bien que quand elles étaient dans la basilique de l'Immaculée Conception, certaines ont un peu souffert. Mais, voilà. Mais aujourd'hui, le sanctuaire en prend soin et a aménagé des réserves adaptées.
Et c'est donc un lieu qui n'est pas ouvert au public. Laure Latane, vous avez pu donc évidemment accéder à ces collections. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, j'ai découvert des merveilles. J'ai été subjuguée par... alors, moi, je parle du point de vue patrimonial et histoire de l'art, évidemment. C'est la forme qui m'intéresse. Pascal parle très bien du fond, de ce mouvement spirituel. Et ce que j'ai découvert, c'est... D'abord, une extraordinaire variété de matériaux utilisés pour ces bannières. À certains moments dans le livre, on essaie de montrer un petit peu tout ce qui a pu, comment elles ont été faites. En tissu, certes, mais aussi en toile peinte, brodées en relief, avec de la verroterie. De la soie, du velours, des pampres, du fil doré, sans doute métallisé. Enfin, il faut être vraiment connaisseur pour aborder toutes les manières. Je pense que ça devrait intéresser aussi les couturières. Je me suis dit, mais une couturière qui voit la variété de ses bannières, c'est un réservoir de formes. Infini.
Puis on peut même imaginer, vous parlez couture, mais il devait certainement y avoir un patron, parce que à la lecture de ce livre Bannière en procession de l'autre, que l'on parle là dans cette heure de pointe, finalement les bannières, elles ont plus ou moins toute une forme assez commune. Est-ce qu'il y avait un patron de couture finalement qui était diffusé?
Oui, alors en 46...
Comment on trouvait ça dans les magazines fil d'art? Là, vous voyez, ça fait penser à ça, ma grand-mère avait ça.
Modes et travaux.
Modes et travaux, voilà. Est-ce qu'il y avait le mode des travaux de l'époque ou pas?
Alors, lors du renouvellement des bannières en 1946, le sanctuaire donne un modus operandi avec un patron. Voilà, il faut que la bannière, elle ait ce format pour prendre place dans la basilique de l'Immaculée Conception. C'est pour ça que beaucoup d'entre elles, qui datent donc des années 50 en particulier, elles ont toutes le même format, parce qu'ils ont respecté les consignes données par le sanctuaire.
Il faut donner peut-être aussi le format, parce que c'est assez impressionnant. Elles font 1,70 m sur 90 à peu près. Hein. Donc c'est quand même des...
Ah oui, elles sont de grands formats.
Grands formats, oui.
Oui, pour les plus anciennes.
Oui.
pour les, celles qui ont été renouvelées donc, après-guerre, je vais vous lire les consignes. Il importe que ces prescriptions soient rigoureusement suivies afin de permettre de respecter l'unité du décor et de sauvegarder l'harmonie des lignes architecturales. Il est même rajouté, prière instante de noter que tout autre modèle, quelle que soit sa valeur artistique, ne saurait trouver place dans la basilique. Les consignes sont claires et il faut respecter un format de 1,20 m sur 0,71 de large et 0,67 en partie haute.
Et oui, il y avait vraiment là un projet, certainement au sanctuaire de Lourdes, d'aller au-delà de la procession, d'avoir cet étendard qui guide le début de la procession pour vraiment un plan de décoration de la basilique.
Justement, ces trésors qui sont dans ces réserves, est-ce qu'il serait concevable peut-être de les réexposer ou de pour le public de pouvoir y avoir accès ou c'est pas encore à l'ordre du jour?
Alors ça, il me semble que ça peut être une perspective, parce qu'en fait, quand on édite un ouvrage pour faire connaître une collection, on a envie de voir les pièces. Ceci étant, c'est un patrimoine très fragile dont on a hérité, et notre responsabilité, c'est de le conserver dans les meilleures conditions. Donc, on peut en sortir ponctuellement, en particulier celles des années 50, elles ont un format qui permet quand même assez facilement de les manipuler. Et on pourrait envisager prochainement de faire une exposition pour les mettre en lumière et les voir en vrai.
Avec certaines pièces.
Uniquement. Avec certaines pièces. Après, il y a des pièces, comme on disait, avec l'or plus ancienne, qui ont un très grand format. Et là, en termes de manipulation, d'exposition, c'est un peu plus compliqué. Ceci étant, il y a quelques années, il y avait un musée trésor à Lourdes qui a fermé en 2010. Et certaines de ces bannières ont été exposées au musée trésor. Mais comme tout élément patrimonial fragile, ça suppose des conditions adaptées et des supports qui ne tirent pas trop sur les fibres. Parce que, comme on l'évoque dans l'ouvrage, c'est un patrimoine très fragile. La soie se délite, se craquelle. Ce patrimoine, il est fait pour être partagé. La première étape, c'est l'édition.
C'est le livre.
Et on espère que ça donnera lieu aussi à une exposition au moins partielle des pièces.
Oui, d'où l'intérêt de cet ouvrage qui est quand même très, très complet. On pourrait pas
on a fait de notre mieux.
Oula, mais vous avez
oui, un ouvrage de 208 pages avec une iconographie magnifique qui, avant qu'un musée des bannières ne s'ouvre, en tout cas, ça nous permet de découvrir cette collection.
Et en plusieurs langues.
L'heure de pointe continue avec aujourd'hui nos invités, Laure Latane. Ça va toujours, Laure ?
Oui, toujours très bien, merci.
Vous êtes historienne de l'art et du patrimoine et vous éditez en partenariat avec le Sanctuaire de Lourdes et votre maison d'édition Jour des Arts, ce livre « Bannières en procession » de Lourdes, un livre que vous avez écrit, composé avec Pascal Castillo. Ça va toujours, Pascal ?
Très bien.
Vous êtes archiviste du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous vous chargez pour le sanctuaire de valoriser son patrimoine. Et donc, avec nos chroniqueuses préférées, avec Anne Deslois. Ça va toujours, Anne ?
Toujours bien, merci.
On fait un voyage dans le temps incroyable.
Magnifique.
Delphine Pereira, notre journaliste de la Dépêche du Midi aussi. Je crois qu'on se régale beaucoup, en tout cas, à découvrir et à feuilleter ce livre, parce que ce livre Bannières en procession, c'est d'abord une rencontre d'abord de deux femmes. Vous, là, qui êtes là, toutes les deux avec nous, nos invités, vous êtes déjà rencontrées par le passé. En 2018, vous avez édité Lourdes, La Cité, le Sanctuaire, magnifique livre. Là aussi, un livre multilingue en quatre langues qui nous fait découvrir toute la richesse patrimoniale de la cité mariale, la cité et le sanctuaire de Lourdes. Et donc cette fois-ci, ces bannières en procession. Laure Latane, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez découvert, parce que l'idée a été un peu soufflée par Pascal Castillo, évidemment, ça fait 10 ans, nous a-t-elle dit, qu'elle disait que c'était important de valoriser en tout cas le patrimoine des bannières de pèlerinage et la collection du sanctuaire. Et donc, elle vous a un peu soufflé cette idée, vous avez découvert, vous nous avez dit tout à l'heure, un patrimoine assez remarquable.
Ah oui, oui, enfin, elle m'a proposé l'idée, moi je ne la connaissais pas, et je pense que Pascal le porte, oui, depuis bien longtemps. C'est vraiment un objet. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas les bannières, donc c'est le seul moyen, finalement, de les montrer dans leur grande richesse et diversité, c'était de les montrer dans un livre. Donc, on a voulu mettre un maximum d'iconographie pour comprendre un petit peu ce patrimoine qui est méconnu et d'une richesse exceptionnelle et qu'il faut, absolument valoriser. Encore une fois, je parlais du répertoire des formes, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce dont parlait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire les bannières après 1946, le renouvellement des bannières après 1946, et on sent une modernité qu'on retrouve un petit peu partout dans l'art sacré à cette époque, enfin qui commence déjà dans les années 30, et ça m'a beaucoup intéressé aussi.
Pascal Castillo, vous nous avez dit qu'il y avait 298 bannières dans la collection. Je ne me suis pas trompé, c'est presque 300. Je crois qu'il y a pour moitié, enfin, vous avez pu reproduire toutes les deux l'iconographie. Il y a bien 150. Oui, c'est ça. Alors, vous confirmez en tout cas 150 reproductions.
On n'est pas loin de 300.
Alors, pas loin de 300 reproductions.
300 images, hein, je ne dis pas quelles sont...
Ah, 300 images, c'est ouais, dire en tout cas la richesse de ce livre, de ce livre d'art. Et donc évidemment, nous sommes en radio, donc ce n'est pas facile de pouvoir s'y plonger. On va avoir besoin de vous pour nous aider à décrire les choses. Le choix a été de faire un livre multilingue, parce que c'est avant tout aussi un tour du monde que vous proposez dans ce livre, Pascal.
Oui, et c'est aussi le reflet de la dimension universelle des pèlerinages à Lourdes et de par ce fait de cette collection. Le souci d'essayer de s'adresser au plus grand nombre à travers les quatre langues. Et comme vous le soulignez, David, c'est vrai que ces bannières elles viennent du monde entier.
Alors, c'est fou. Tout à l'heure, Laure nous a dit la première bannière qui m'a marqué, c'est celle de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Shanghai? Il fallait quelle page? Est-ce que vous savez?
Il y en a deux. Ah oui, on a quand même deux bannières
et
de Chine.
Aidez-nous à souffler, Pascal, c'est quelle page?
186.
Page 186. Allez, comme ça, on a ça sous les yeux. Vraiment, il faut que vous...
Et 188.
Voilà. Oui. Pour nos auditeurs, il faut absolument que vous procuriez ce livre parce que c'était vraiment un ravissement. Alors oui, décrivez-nous cette bannière.
Alors, ces bannières...
Oui, alors, ce qui était un petit peu particulier, c'est on est dans un pays catholique, et Pascal me montre la bannière de Chine. Alors, je vois un petit monastère très tibétain et des caractères chinois. Et là, on est parti dans un voyage. C'était ça un peu ma stupéfaction. Et après, évidemment, je laisse à Pascal la parole parce qu'elle connaît bien l'histoire de ces bannières.
Oui, en fait, donc il y en a deux. Elles ont été réalisées par les sœurs auxiliatrices du purgatoire qui avaient fondé une mission tout près de Shanghai. Donc la fin 19e, la grande période d'émission partout dans le monde. Et à deux reprises, au moins, en tout cas on a deux témoins, ces religieuses vont faire le vœu d'offrir une bannière en ex voto à Lourdes si en 1897 elles sont sauvées lors de l'épidémie de choléra.
Oui.
Et un peu plus tard, une période de persécution en Chine pour les communautés chrétiennes, pareil, elle se voue entièrement à Notre-Dame de Lourdes en demandant sa protection, en disant on fait le vœu, si on est protégé, d'offrir une bannière à Notre-Dame. Voilà. J'évoquais tout à l'heure la dimension d'ex voto. ce don suite à une grâce reçue.
Donc il faut imaginer qu'entre 1897 et 1901, ces personnes, ces religieuses et certainement des chrétiens et des catholiques autour d'elles, ont pris la route pour venir jusqu'à Lourdes porter cette bannière.
Alors, soit ont pris la route, soit la congrégation était présente aussi en Europe, dans le cadre des échanges au sein de la congrégation et du voyage des religieuses, elles ont pu arriver jusqu'ici.
Ça fait que c'est absolument magnifique. Anne Deslois, ça vous plaît, ça?
Ben oui, ça me plaît beaucoup, surtout qu'au XXIe siècle, il y a un certain nombre de pèlerins chinois qui viennent au sanctuaire de Lourdes. Alors certains y viennent comme touristes, mais il y en a qui font vraiment une démarche religieuse, une démarche de pèlerin. Et je trouve que c'est très touchant, Pascal, en entendant que ces bannières datent de la fin du 20e, la fin du 19e même, hein, vous avez dit 1800 et quelques.
Fin 19e, début 20e.
Voilà. Et donc, je trouve que pour des chrétiens ou des catholiques chinois aujourd'hui, ça doit être quelque chose de très émouvant. Si jamais un jour, ça se faisait effectivement une exposition et que ces bannières-là puissent exposer, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça participe aussi à de l'évangélisation. Ce qu'on voit là à travers les belles photos de ce livre, je trouve que ces deux bannières retiennent vraiment toute notre attention parce qu'il y a quelque chose, on sent, de très artistique dans leur réalisation. Et on sent que c'est un moyen aussi pour la prière, quoi. Moi, je le ressens comme ça, rien qu'en le voyant, en voyant ces reproductions dans le livre, il y a quelque chose de très touchant, notamment la deuxième qui a été faite là pour 1901. La Vierge de Lourdes, qui est représentée sur la bannière, dans des artifices, on va dire, dans un décorum assez exotique et chinois, avec les personnages, la calligraphie, mais quelque part, on retrouve la Vierge du Rocher, la Vierge de la Grotte de Lourdes, quoi.
Ouais,
je trouve que c'est très touchant.
C'est étonnant.
Merci de nous l'avoir mis en valeur comme ça à travers le livre.
On voit bien qu'Anne Deslois pousse à ce qu'il y ait une exposition qu'elle organise. Donc, il faut adresser un message au conservateur du sanctuaire, Robin Dupont, l'archiviste aussi du sanctuaire Nicolas d'Argegène, et voilà, avec Pascal d'organiser peut-être cela. Et elles sont quand même toutes totalement différentes. Laure Latane, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous, la bannière qui vous avez peut-être le plus interpellé, accroché, ou en tout cas plu, c'est la bannière de Saint-Georges, la bannière de l'Angleterre de 1883. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? On n'est plus là, du coup, dans la Chine,
Alors, il y a plusieurs bannières qui... Enfin, à chaque fois, je me dis, ah oui, mais celle-là aussi est intéressante. Ah, mais celle-là aussi. J'en ai une sous les yeux et je me dis, oh, ils ont fait les rochers en tissu et c'est d'une beauté. Enfin, mais celle de Saint-Georges, elle me plaît parce qu'elle a un mouvement. Alors là, elle est parfaitement artistique, pour le coup. On sent plus une foi, enfin une volonté de montrer par le travail de l'aiguille la foi en Dieu. Mais celle-là, elle a un mouvement avec la queue du dragon. Alors c'est Saint-Georges en chevalier qui est en train de tuer le dragon. C'est le symbole de l'Angleterre. Et le dragon a une queue qui monte comme ça en l'air, qui est très, très joliment faite. Et c'est sur un fond de velours. Le velours est un petit peu abîmé, mais à l'origine, il était bordeaux sombre. Et tout est en doré, et Saint-Georges est sur un cheval blanc qui hennit. Donc on est vraiment on se croirait dans un film américain des années 40, Zorro, quoi. Et donc le blanc du cheval, Saint-Georges avec une armure blanche et ce dragon doré avec sa queue qui monte, je trouve qu'elle est somptueuse. Voilà,
Il faut dire que cette émission, et chers auditeurs, vous l'entendez en radio, mais vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux du sanctuaire parce que nous captons aussi cette image, cette émission en image et en vidéo, et donc voilà, on arrive à montrer en tout cas les illustrations. Pascal Castillo, vous m'avez dit aussi en préparation qu'il y a une bannière que vous avez sous les yeux qui vous a marqué, c'est l'église, celle de l'église en silence.
Oui, alors c'est comme le soulignait Laure, c'est difficile parce que elle nous marque à travers ces bannières. Ce sont à chaque fois une histoire particulière. Sur l'une, ça va être l'aspect artistique, graphique. Sur l'autre, ça va être les circonstances du don. Sur l'autre, moi, je soulignerai celle de l'église du silence.
parce que je trouve ça à la fois touchant et marquant pour aujourd'hui aussi. En 1958, donc à l'occasion du centenaire, il y a un grand congrès mariologique à Lourdes, et le thème du congrès, c'est « Marie et l'Église ». Et à ce moment-là, il y a des groupes de travail qui se mettent en place, dont un sur l'Église du silence. En fait, ce sont tous ces pays sous le joug communiste. Voilà. Et donc, on est dans une temporalité particulière. Voilà. Mais, et à la fin de ce congrès, cette bannière de l'Église du silence est offerte au sanctuaire. Et je trouve ça... beau et de se dire que à chaque période, en fait, on dépose au pied de Notre-Dame les communautés qui souffrent et voilà, donc sur une des faces, le nom des pays concernés, il y en a 18, est en langue originale, et de l'autre côté, c'est en latin pour permettre à chacun de comprendre.
La bannière de procession, c'est aussi, quelque part, un élément de revendication politique, parce que ça peut être aussi, quelque part, assez marqué, finalement, de porter la bannière. Est-ce que c'est... c'est pas systématique dans l'histoire des processions, si on vient de comprendre, mais est-ce que ça
Alors,
peut être aussi...
Alors, je ne parlerai pas de revendication politique. Il me semble que, même si en réaction à certains événements, il y a pu avoir des pèlerinages spécifiques à Lourdes, Lourdes n'est pas le lieu de revendication politique. C'est inscrit dans un temps. Et il se trouve que là, on est dans une période, voilà, avec la période communiste, la difficulté de vivre sa foi sous ces régimes politiques. Hein, et c'est plus en ce sens là que, voilà,
la photographie de l'époque,
oui, voilà,
à laquelle ces personnes venaient en pèlerinage.
Il y a une duchesse aussi célèbre qui apparaît dans les collections. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, vous avez peut-être vu il y a quelque temps à la télé, je ne sais plus si c'était un film ou une série, sur le bazar de la Charité.
Oui.
Donc, cette grande vente des dames patronesses à Paris et le grand incendie qui a coûté la vie... À de nombreuses personnes. Et il se trouve que la duchesse d'Alençon a été victime de l'incendie. Et son époux, l'année d'après, a fait réaliser dans une de ses robes d'apparat une bannière qu'il est venu offrir à Notre-Dame de Lourdes en souvenir de son épouse. Et voilà cette belle bannière en moire de soie bleue, avec sur sa face principale Notre-Dame de Lourdes, et au revers, les armes de la Maison de France et de la Maison de Bavière, puisque la duchesse d'Alençon était sœur de l'impératrice et princesse de Bavière.
C'est quand même... C'est bouleversant, c'est vraiment très beau. On a parlé de la Chine, mais il y a aussi des bannières qui viennent d'Amérique, de Brooklyn, enfin vraiment un peu de partout. Et alors, il y a aussi les bannières locales. Et donc, on a la bannière de Pau, pour nos auditeurs qui nous écoutent à Pau, dans le Gers, etc. Enfin, il y a aussi une réalité très proche, en tout cas très pyrénéenne.
Oui, tout à fait. Alors, le diocèse de Pau a le privilège d'avoir laissé, au moins, en tout cas dans nos collections, il y a deux bannières de Pau. Une, qui est d'ailleurs une des plus anciennes de la collection, 1867, c'est la bannière de l'école chrétienne de Pau. Elle est au début de la galerie des diocèses, enfin des bannières françaises.
Oui, parce que dans le livre, on a... Ah oui, voilà.
Les enfants de Pau.
Les enfants de Pau.
Avec le blason de la ville.
Ah oui, magnifique. Voilà. 1867.
Donc, une bannière en velours, avec un décor en application de fil d'or, comme le précisait tout à l'heure Laure, des franges et qui se termine par des pompons. Et une autre bannière également pour Pau, de la paroisse Saint-Jacques de Pau. Ça va sûrement parler à certains.
Ah oui, là on a forcément des auditeurs de la paroisse Saint-Jacques.
Ben voilà, une magnifique bannière d'une Vierge à l'Enfant en majesté qui date de 1901.
Oh ouais, elle est magnifique.
C'est superbe, hein.
Ah oui, c'est magnifique.
Et là, si on regarde en détail, il y a tout un travail de broderie et de coloration des fils de soie.
On voit quand même là, il y a eu un travail incroyable. Laure Latane, je crois que vous y avez participé. D'abord, il a fallu photographier parce que pour illustrer, eh bien voilà, il faut bien que les bannières apparaissent dans le livre. Et puis un travail de mise en page incroyable. Enfin, tous les petits pompons, les petites franges sont détourées. Enfin, mais vous avez passé, c'était maniacal ça comme travail.
Presque autant que les sœurs qui ont... Parce que je pense qu'on n'en a peut-être pas parlé
de la confection,
mais ce sont souvent les sœurs... Alors, Pascal, encore une fois, parlera mieux que moi. Moi, je voulais juste revenir, avant la confection, si on peut, juste un petit écart. Pour ce livre, c'est-à-dire qu'on a voulu donner vraiment tout... Enfin, on n'a rien compté, ni le temps, ni les vacances, ni rien du tout, puisque on a travaillé beaucoup à un moment donné cet été. Et la bannière tchèque, qui a aussi une grande histoire, qui était intéressante parce qu'on l'a mise un petit peu à part, puisque c'est une bannière que vous essayez de restaurer avec la communauté tchèque. Et on a été jusqu'à... Enfin, le sanctuaire a été jusqu'à traduire en tchèque pour que les Tchèques puissent lire l'histoire de leur bannière. Et ça, c'est un peu le propos de ce livre. C'est-à-dire, on fait un livre, mais on se donne, si on peut, tous les moyens possibles pour que les choses soient faites et qu'elles englobent un petit peu tous les Enfin, voilà, c'est une histoire, c'est une longue histoire et une grande histoire.
L'occasion de remercier Anna, la secrétaire de notre évêque, qui a eu la gentillesse de nous traduire ce texte.
Une dernière question, on pourrait parler encore longtemps, mais le temps nous est compté, Anne.
Ce n'est pas une question, c'est simplement un remerciement pour nos frères aussi forains qui viennent en pèlerinage, le pèlerinage des gens du voyage. Vous avez aussi mis dans le livre une très belle bannière qui a été faite, je crois, au milieu du 20e siècle, donc assez récemment, qui dit beaucoup de choses à la fois sur Marie et les arts forains. Donc vraiment, je trouve que ça change complètement aussi de toutes celles qu'on a donc détaillées tout à l'heure. Il y a un côté beaucoup plus moderne, mais c'est vraiment, ça touche au cœur parce que c'est vraiment un clin d'œil pour tous ceux qui viennent en pèlerinage à Lourdes, qui sont du bout du monde, proche de chez nous, ou comme les gens du voyage. Merci.
Aujourd'hui, on prend des photos, on essaie de capturer des moments de vie, des moments d'une époque, des moments artistiques. Eh bien, dans ce livre, ce sont des moments de Lourdes qui nous sont partagés, mais tout brodé de fil d'or, de soie, d'un petit peu tout finalement. Et ça montre quand même la richesse aussi des pèlerinages à Lourdes. C'est ce livre, Bannière en procession, qui est édité chez Jour des Arts en partenariat avec le Sanctuaire NDL Édition. Ce livre, il est écrit par Pascal Castillo et Laure Latane. Vous avez été nos invités. Ça, c'est vraiment le cadeau de Noël.
Ah, tout à fait.
Hein, on est d'accord. Nous, on vote pour le cadeau de Noël. Alors, le cadeau de Noël s'appelle Bannière en procession. Alors là, vous allez faire sensation sous le sapin. Oui, Pascal.
Oui, je voudrais dire un merci. Enfin, il y en aurait beaucoup à dire, mais... ce travail a été rendu possible grâce à l'investissement de Laure, à ses talents aussi, mais également grâce au concours des archivistes diocésains, mes collègues, que j'ai beaucoup sollicité pour essayer de retracer l'histoire de chacune de ces bannières. Et ils ont beaucoup, et de façon très enthousiaste, travaillé, sans toujours trouver l'histoire de la bannière, mais en tout cas en se démenant et en faisant de leur mieux pour nous aider. Et comme je le soulignais, avec beaucoup d'enthousiasme, ce qui était aussi précieux pour nous encourager dans ce travail et dans ces recherches.
Mais cet enthousiasme, vous avez su nous le transmettre. Voilà, Bannière en procession, vous pouvez le trouver à la librairie du Sanctuaire de Lourdes, également en ligne. Et puis, Laure Latane, vous qui êtes l'éditrice, très certainement dans les librairies de notre région.
Je voulais juste préciser que c'est un livre collectif, c'est-à-dire qu'il a été écrit par plusieurs personnes. Moi, j'ai travaillé un peu sur les textes, mais je ne suis pas auteur. Pascal, évidemment, est la directrice de l'édition. Il y a eu Bernard Berthaud, Josiane Pagnon, Monseigneur Jacques Perrier et Robin Dupont, qui sont les auteurs du livre.
Voilà. Oui, merci
Laurent.
Merci à eux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
Oh, certainement.
Tout à fait. Bon week-end.
Merci. Bon week-end à tous.
Merci. À bientôt. Au revoir.